Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc Excellences, chers panélistes, chers participants, chers amis des coalitions. C'est comme toujours, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui lors de cet événement parallèle organisé en marge de la 18e session du comité intergouvernemental pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Je voudrais d'abord remercier la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, ainsi que la Commission canadienne pour l'UNESCO et la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement, pour leur soutien précieux. Je salue également les experts et représentants de la société civile ici présents, qui jouent, comme il a été dit toute la matinée, tout le matin, un rôle clé dans la mise en œuvre des recommandations du groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles, notamment dans l'environnement numérique, mais pas seulement. Assurer l'épanouissement de la diversité culturelle dans l'environnement numérique est un défi majeur. Le numérique et l'intelligence artificielle transforment la création et la diffusion des contenus culturels et ces avancées offrent sans doute des opportunités mais exacerbe aussi des déséquilibres, menaçant surtout la diversité culturelle et linguistique en ligne. La concentration de plateformes numériques, les algorithmes de recommandation et l'usage massif de données impactent directement la visibilité des expressions culturelles locales et l'équité d'accès aux différents marchés. Face à ces enjeux, le groupe de réflexion a formulé des recommandations pour renforcer la pertinence de la Convention de 2005 à l'ère numérique. Il est sans doute crucial d'adapter les modèles de gouvernance culturelle, de trouver des façons de dialogue avec les plateformes, de garantir la transparence des algorithmes, et de développer des politiques favorisant la visibilité des contenus locaux et la protection des droits des créateurs. La reconnaissance de la culture comme bien public, ou common goods, doit être au cœur de nos actions. Et dans ce cadre, le rôle de la société civile est sans doute fondamental. La déclaration, vous rappelez, de Mondiacul 2022 a d'ailleurs souligné l'importance d'une coopération soutenue avec la société civile pour une gouvernance inclusive de la culture à l'ère numérique. Vos expertises et votre engagement sont essentiels pour identifier des solutions adaptées et garantir une mise en œuvre efficace et opportune des mesures adoptées. L'année 2025, comme vous le savez, marque une étape importante pour, pas seulement cette convention, mais pour la culture mondiale. Ce 20e anniversaire de la convention de 2005 et l'occasion de réaffirmer notre engagement envers la diversité culturelle dans un environnement numérique en constante évolution. La transformation numérique et l'essor de l'intelligence artificielle présentent bien sûr des nouvelles dynamiques, souvent qu'on ne connaît pas. Mais aussi, comme je l'ai dit, le fameux mot « exacerbe », les déséquilibres. Et je dirais que, dans certains cas, mettre en péril, justement, la diversité des expressions culturelles. Dans ce contexte, il est essentiel de promouvoir des échanges culturels plus équitables, de renforcer les mécanismes de gouvernance, pour assurer qu'il y ait une visibilité accrue, surtout des créations locales. À l'approche de la prochaine conférence mondiale, à Barcelone, de Mondiaculte, cet échange revêt donc une importance stratégique. Il nous permet de consolider notre engagement en faveur d'un environnement numérique plus équitable, respectueux de la diversité culturelle et mieux réglementé face aux défis qui sont posés par l'IA et la concentration des plateformes. Si vous me permettez, ça fait des jours que je réfléchis un peu à comment présenter la situation d'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Comme vous le savez, il y a un partage par rapport à l'importance de trouver des mécanismes pour que les entreprises qui aujourd'hui sont en train d'investir sur l'innovation puissent permettre effectivement de continuer un chemin. Mais en parallèle, il est important de ne pas oublier que cette convention, et j'ai un peu revu l'historique des 10 ans de débat depuis la déclaration sur la diversité culturelle, peut présenter un danger réel pour la disparition des différentes cultures, même dans un pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'appel que font la plupart des représentants de vos pays au niveau national, il y a une demande d'action, c'est-à-dire ne plus seulement se cadrer dans le discours et dire qu'on a besoin de plus de réflexion, mais aussi de prendre des actions claires, fermes. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail qui a été fourni par les experts, mais aussi appuyé par les ONG, qui, je crois, doit être pris en considération et ne pas avoir peur de prendre des décisions qui peuvent vraiment signifier que l'UNESCO est dans son plein mandat et que cette convention a vraiment la force à laquelle vous avez tous souhaité lors de la création de cette convention. Voilà. Donc, ensemble, nous devons nous assurer que la transformation numérique ne se fasse pas au détriment de la richesse de toutes nos expressions culturelles. Et vous le savez très bien que la culture continue à être un moteur essentiel de développement durable. Il a été prouvé, donc on n'a pas à le prouver, c'est un fait, mais doit être protégée en même temps et promue dans toutes ses dimensions, et pas seulement dans certaines des dimensions. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je serai là pour tous vos commentaires et réflexions. Merci beaucoup et merci pour m'avoir attendu quelques minutes. Merci.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cet exercice de partage d'expériences et de partage d'idées sur les enjeux de diversité des expressions culturelles, notamment enjeux qui sont exacerbés par l'émergence des technologies, comme ça a déjà été souligné. Alors, mon nom est Pierre Trudel, je suis chargé d'agir comme président de cette séance. Je suis accompagné, outre monsieur qui nous a fait cette adresse inaugurale, je suis accompagné de Guillaume Prieur, de Viviana Reinhel, de Destiny Chewali, et de Liliana Anania. J'espère que j'ai bien prononcé les noms, j'ai pas toujours ça. Et qui sont finalement les quatre personnes qui vont interagir dans le cadre de cet exercice d'aujourd'hui. Nous allons tenter de garder suffisamment de temps pour qu'il y ait des interactions avec les personnes participantes qui sont dans la salle ou qui sont avec nous, mais de façon virtuelle. On m'a demandé de rappeler le contexte de ce groupe de réflexion. En fait, la coalition canadienne sur la diversité des expressions culturelles a tenu au printemps de l'an dernier une sorte de colloque dans lequel, au cours duquel des personnes de la société civile, des experts, ont réfléchi et ont échangé autour des enjeux qui étaient ceux qui étaient soumis à l'attention du groupe d'experts. Alors, on a d'ailleurs avec nous deux personnes membres de ce groupe d'experts et ils auront l'occasion de nous éclairer sur les principales recommandations qu'ils ont formulées dans leur rapport. Je veux simplement rappeler que lors de ces exercices qui ont été menés dans ce colloque de Québec, les participants ont convenu de la nécessité d'avoir des lois et des réglementations à jour, à niveau, et qui reconnaissent que les risques auxquels sont exposées les cultures minoritaires doivent être considérés dans le déploiement et l'utilisation des dispositifs techniques, comme les plateformes en ligne ou l'intelligence artificielle. On a convenu également, ou enfin on a convenu de la nécessité de lois obligeant la mise en place de mesures permettant la mise en valeur, la découvrabilité, la découverte des contenus locaux, nationaux et nationaux sur les plateformes en ligne. On a insisté sur la nécessité d'avoir des lois sur le droit d'auteur qui permettent effectivement une réelle reconnaissance du travail des auteurs et également une rémunération juste et conséquente. Afin de protéger ce qui est la base de l'expression de la diversité culturelle, c'est-à-dire la création humaine. Les participants aussi, se sont aussi intéressés à la nécessité de faire en sorte que les systèmes d'intelligence artificielle générative fonctionnent de manière à assurer les divulgations appropriées des œuvres qui sont utilisées pour nourrir ces systèmes qui, rappelons-le, gobent des quantités phénoménales de données. On a aussi insisté sur des lois ou sur la nécessité de renforcer la protection des artistes et des interprètes, des artistes-interprètes, face à la prolifération des hypertrucages et la possibilité de, littéralement, les doubler virtuellement, notamment par le recours à des technologies comme l'intelligence artificielle. On a rappelé aussi la nécessité d'assurer la protection de la diversité linguistique, notamment la diversité linguistique en ce qui a trait aux peuples autochtones, aux peuples qui appartiennent à des groupes minoritaires. Et enfin, on a insisté pour exiger de la transparence de la part des entreprises exploitant des systèmes d'intelligence artificielle, surtout lorsqu'elles diffusent des productions culturelles qui sont purement générées par l'intelligence artificielle. Donc, qu'on puisse au moins savoir que ces productions ont été produites par d'autres génies que le génie des personnes humaines. Voilà un peu le contexte de réflexion dans lequel s'inscrit cet exercice et qu'on vous propose en fait de prolonger aujourd'hui et de partager d'autres expériences et d'autres dimensions qui pourraient être pertinentes là, de partager. Je vais vous et pour y arriver, ben, je vous propose de commencer par entendre pendant les 10 prochaines minutes les positions des représentants de la société civile. Et je me retourne vers Guillaume Prieur, qui est secrétaire général de la Coalition française sur la diversité des expressions culturelles, à nous faire part de ses constats et de ses recommandations.
Désolé pour le bruit. Merci beaucoup. Je pense que cette table ronde, elle est intéressante et elle est importante. Moi, je vais d'abord commencer à réagir, mais de toute façon, je pense qu'on y reviendra aussi un peu plus longuement autour de la table sur les 11 recommandations qui ont été faites par le groupe d'experts. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une recommandation dont on parle plus que les autres, et puis on en reparlera aussi, c'est celle du protocole additionnel, mais c'est vrai que je voulais déjà commencer par saluer quand même la qualité du travail de réflexion extrêmement approfondie qui a été conduit par les experts. Je pense que c'est un travail qui est extrêmement riche. qui était extrêmement nécessaire et qui l'était d'autant plus. Et là, c'est vrai que je voulais rebondir sur un mot que vous avez prononcé, monsieur le directeur général adjoint, qui n'est pas exacerbé, même si c'est un très joli mot de la langue française, mais qui est le mot « urgence ». Et je pense qu'effectivement, il y a urgence, il y avait urgence et il y aura urgence. Les questions que pose le numérique sont pas, enfin, les rapports entre numérique, création et diversité culturelle ne sont pas nouvelles. Il y a 10 ans, il y avait déjà un travail de réflexion qui avait été engagé, qui avait débouché sur des directives opérationnelles pour déjà assurer finalement la pleine effectivité de la Convention aux problématiques qui étaient posées par le numérique. Donc on est sur finalement une continuité des réflexions qu'il y avait, mais avec aujourd'hui une accélération du temps, une accélération des enjeux et une accélération des problèmes. Ces 2 derniers jours à Paris s'est tenu un sommet sur l'intelligence artificielle dans lequel il y a eu des choses positives. Il y a eu notamment quelques paroles de cinéastes ou de créateurs qui ont véritablement bien posé les enjeux qui existait. C'est pas simplement effectivement de dire d'ailleurs l'IA c'est bien ou c'est mal. De toute façon l'IA elle est là, elle existe et qu'on le veuille ou non elle continuera à se déployer, mais qui ont posé cet enjeu finalement de définir un cadre de développement qui soit respectueux de la création du droit d'auteur qui est un enjeu particulier et de la diversité culturelle. Dans ce sommet de l'IA, il y a eu des éléments qui ont été un peu plus décevants, et je pense notamment à la déclaration finale qui est quand même assez peu disante, on va dire, sur la question de la propriété culturelle, la propriété intellectuelle et puis la question de la diversité culturelle. Mais je pense que ça rend d'autant plus important les réflexions sur le cadre international. L'urgence, on doit la traiter à tous les niveaux. Elle se traite au niveau local, elle se traite au niveau national. Mais il faut aussi qu'au niveau international, on ait un cadre qui permette justement d'aller dans le sens d'une régulation plus forte. Et une régulation, d'ailleurs, ça veut pas, c'est pas contre l'innovation. Parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent d'opposer finalement l'innovation et la régulation. Il n'y a aucune antinomie. On peut tout à fait envisager une régulation qui permette au contraire d'encadrer cette innovation et de lui permettre de se développer dans un cadre qui soit par ailleurs juridiquement sécurisé et puis qui permette aussi un développement économique qui repose sur des bases loyales. Donc ce cadre international, il est effectivement extrêmement, extrêmement important, extrêmement sensible. Et je pense qu'au-delà de la question de l'urgence, il y a aussi le fait que la Convention, elle est aussi arrivée à un carrefour. Cette année, on est en 2025, on va fêter les 20 ans de la Convention. Et je pense que c'est important à la fois de se retourner vers le passé, vers les principes finalement qui ont donné cette Convention et dont on considère toujours que ces principes, ils ont vocation à continuer à s'appliquer. Et d'ores et déjà, ils sont applicables en fait finalement à l'ensemble des supports ou des modes d'exploitation ou de production, de diffusion ou de distribution de la culture. Donc il ne s'agit absolument pas de dire qu'aujourd'hui la Convention ne prévoit pas ou n'a rien à dire sur les nouveaux enjeux qui existent, mais simplement, je pense qu'effectivement, on a aussi besoin d'avoir un outil international qui permette de décliner au plus près les principes de la Convention, qui reste permanent, et finalement un encadrement plus fin, plus précis, et qui permette d'aller cibler directement les enjeux qui existent. Parce que si on prend la question de l'intelligence artificielle, de fait, il y a des enjeux de création. On voit bien à la fois les opportunités que ça peut générer, mais aussi les risques qui sont induits par le développement d'une intelligence artificielle auprès d'un certain nombre de professions. Parmi mes autres casquettes, je suis aussi directeur des affaires institutionnelles de la SACD, donc la Société des auteurs compositeurs dramatiques. C'est vrai que les scénaristes, par exemple, sont extrêmement inquiets du développement et d'un risque de remplacement, finalement, du travail d'écriture qui est aujourd'hui le leur. Donc il y a des risques, il y a des menaces, il y a des opportunités. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive aussi à avoir dans l'univers international. On travaille beaucoup actuellement au niveau européen sur la question du droit d'auteur pour avoir un cadre qui permette justement d'être assurer en tout cas d'une transparence sur la manière dont les œuvres sont utilisées pour entraîner les services d'IA. C'est aussi important, de la même manière qu'on a eu la convention de l'UNESCO en 2005 et que c'était un acte fondateur, aussi de pouvoir aller sans doute aujourd'hui un peu plus loin dans l'élaboration et dans le renforcement du cadre international qui vient entourer finalement et sécuriser et promouvoir la diversité culturelle dans cette ère numérique.
Merci. To Viviana Rangel.
Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Viviana Rangel pour qu'elle puisse expliquer sa position et la manière dont vous jouez un rôle dans le domaine de la diversité des expressions culturelles. Très bien. Je viens de la Fondation Charisma. Nous sommes une ONG, une organisation de la société civile qui défend les droits humains dans l'environnement numérique. Nous travaillons dans le domaine de la transparence de l'IA, la cybersécurité, les cyberpatrouilles. Nous essayons d'assurer que la mise en œuvre des technologies en Colombie respecte les droits humains. Depuis 15 ans, nous travaillons dans des domaines liés à l'accès aux connaissances, au savoir, surtout la propriété intellectuelle. Nous avons fait du travail chez WIPO et nous travaillons sur les droits d'auteur et l'environnement numérique. C'est pour cette raison que nous avons suivi la mise en œuvre de la feuille de route qui a été adoptée par la Convention internationale. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de points pour l'univers numérique qui n'ont pas été mis en œuvre dans notre pays. Donc, il y a une recommandation sur le protocole. La première recommandation sera utile pour essayer d'aider nos gouvernements à assurer qu'il y a des mesures pour protéger la culture dans les univers numériques. Il y a des discussions en cours en Colombie pour approuver une nouvelle loi générale. Et cette année, il n'y a rien sur l'environnement numérique dans les propositions de loi qui ont été faites. Nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les environnements numériques. Nous savons qu'il y a quelque chose de dangereux dans l'IA. Et nous savons ce que les plateformes font, l'impact qu'elles ont sur notre écosystème musical, par exemple. C'est dangereux, mais nous n'avons pas d'outils pour essayer de résoudre cette situation. Donc nous allons essayer d'approuver une nouvelle loi, mais on ne va rien dire sur le numérique. Ce qui est bien sûr une grande erreur, de pouvoir adopter des lois en 2025 où il n'y a pas de mention du numérique. Mais pour cette raison, nous appuyons la première recommandation. Quelque chose qui soit contraignant serait utile pour nous pour essayer de faciliter notre travail de plaidoyer au sein de nos différents pays. Parce que ces recommandations qui soutiennent le plaidoyer, les actions de plaidoyer, ces plaidoyers concernent le niveau national, régional, international, comme celui de l'UNESCO. Mais sans instruments contraignants, nous ne pourrons rien faire au sein de nos pays. Donc c'est pour ça que ce protocole est important pour nous. Parce que parfois, il est mieux d'avoir ce type de protocole pour essayer de changer les choses dans nos pays. Nous avons aussi conclu que les recommandations 5, 6 et 7 qui parlent d'actions de plaidoyer, de sensibilisation du grand public et surtout la création des plans de capacité culturelle au niveau national, ça c'est quelque chose qui est très utile pour nous. Donc nous pensons qu'avoir un protocole qui soit un outil contraignant nous permettrait de pouvoir dire nous pourrons faire quelque chose ensemble entre les acteurs du secteur de la société civile, entre les acteurs internationaux, que nous pouvons œuvrer pour changer les choses. Nous pensons également qu'avoir des experts qui nous aident en appuyant le renforcement de ces programmes et dans le développement de ces programmes culturels dans nos pays, c'est quelque chose de très utile. Mais nous pensons également qu'il faut qu'il y ait des discussions entre les pays du Sud pour voir ce qui est bien pour nous, parce que souvent ici on parle de choses qui ne sont peut-être pas super utiles dans nos différents pays, mais maintenant chez WIPO, nous avons une alliance entre les pays africains, les pays de l'Amérique latine et d'autres pays qui ont le même profil en termes de besoins. Par exemple, en Europe, en Amérique du Nord, on peut demander aux plateformes de respecter vos règles. Mais en Colombie, nous devons suivre les lois qui sont mises en œuvre aux États-Unis parce que nous n'avons pas de règles, par exemple de Spotify, qui s'appliqueraient spécialement à la situation colombienne. Donc nous sommes confrontés à ce problème de notre nouveau gouvernement qui refuse de légiférer sur les plateformes. Mais il ne s'agit pas seulement de plans culturels, c'est également des discussions nationales dans notre congrès national. On se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire pour confronter ce que font les plateformes dans nos pays? Merci.
Les deux experts, membres du groupe d'experts, je propose de leur demander de faire un bref retour sur les réunions qu'ils ont tenues. On serait heureux de les entendre sur les différents éléments qui sont notamment relatifs à leurs recommandations, en particulier celles relatives au protocole additionnel. Pourquoi un protocole additionnel? Quelles sont les alternatives qui ont été considérées? Quel échéancier et comment toutes ces mesures qu'il recommande se complètent les unes avec les autres. Alors, dans un premier temps, je propose de donner la parole à Destiny Chiaouli et par la suite, Madame Liliane Anania interviendra aussi. Alors, Destiny, je vous cède la parole.
Merci, professeur Trudel. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très honorés de nous retrouver ici devant vous pour partager avec vous le fruit de nos réflexions, de nos travaux et la substance des recommandations que nous avons soumises aussi à votre analyse. Je commencerai simplement avec quelques éléments de contexte et de retour en lien avec le processus même qui nous a amenés à déboucher sur ces recommandations. Donc, vous le savez, notre groupe était un groupe qui incarnait cette diversité à la fois géographique, mais diversité aussi au niveau des perspectives, des points de vue, des profils et des expertises et des secteurs et des enjeux aussi autour de la culture et du numérique et de la diversité des expressions culturelles également. Et donc, nous l'avons vraiment expérimenté au cours de ces 6 journées qui s'était réparti en 2 séquences, donc une première séquence à Québec au mois de mai dernier, avec une étape qu'on va considérer comme étant une étape de diagnostic, où nous nous étions fixés comme objectif de cerner les enjeux, de les identifier, de les prioriser surtout, en partant justement des 4 thématiques qui nous étaient soumises à réflexion. Je le rappelle peut-être ici rapidement, promotion de la diversité linguistique des contenus culturels, la découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux sur les plateformes numériques, l'importance de la transparence accrue et significative des plateformes autour des enjeux culturels et bien évidemment aussi la question de l'intelligence artificielle et son impact sur les industries culturelles et créatives. Alors, à partir de cette thématique, ce que nous avions essayé de faire, c'était surtout de les structurer en domaines d'action. Parce qu'on se disait que pour faire des recommandations qui soient les plus applicables que possible, il fallait tout de suite sortir d'une logique, très thématique et très sectorielle pour finalement, en fait, retenir les éléments transversaux donc, qui étaient communs à l'ensemble des enjeux thématiques. Et donc, ça a été le travail qui a été fait dans la deuxième étape lors de notre réunion à Paris en novembre dernier et qui donc a débouché sur l'élaboration et la formulation des recommandations telles que vous les avez pour lecture. Et donc, revenons aussi sur la méthodologie, parce que c'est des éléments, je trouve, essentiels pour que vous compreniez aussi comment nous avions travaillé, comment nous avions réfléchi. C'est important peut-être d'insister ici sur le fait que, et M. Ottoni le soulignait tantôt, nous avions ressenti l'urgence d'agir. Parce qu'on voyait que ce que nous considérions comme acquis grâce à cette convention, qui date maintenant de bientôt 20 ans, se retrouve quelque part plus que jamais menacé et fragilisé. Qu'il était important que nous puissions aller soit dans le sens de vouloir encore poser un jalon pour l'avenir. Nous savons bien le faire, ça. On a fait des études, on a fait des diagnostics, on fait des recommandations. Je vous dirais même qu'en 2017, quand on adoptait les directives, on posait encore des jalons pour l'avenir, en réalité. Même à travers les feuilles de route, on pose des jalons. Et là, on s'est dit, mais comment on peut aller plus loin en étant plus, impactant par rapport au tournant un peu crucial dans lequel, face auquel nous sommes. Mais je vous dirais surtout un peu aussi face au cynisme des personnes qui aujourd'hui sont en fait irruption dans le monde de la culture, mais qui ne jurent que par des logiques de marchandisation de la culture et qui ne jurent que par des intérêts, vous le savez, économiques, commerciaux et donc tout ce qui est lié à des profits. Et donc cela nous a amené à dire ben, il faudrait peut-être aller dans des recommandations qui à la fois tiennent compte de l'urgence d'agir, d'intervenir et qui donc soient souples et flexibles à mettre en œuvre, mais aussi d'aller vers un instrument qui viendrait simplement renforcer l'impact normatif de notre précieuse convention. Et à partir de là, on a établi un certain nombre de scénarios et nous avions justement procédé par priorité de domaine d'action. Et vous le savez, il y a ces quatre domaines d'action, donc l'action normative, le partage de bonnes pratiques, le partage de l'information, la sensibilisation et le plaidoyer, et bien évidemment aussi toutes les actions en lien justement avec le renforcement des capacités. Alors ça, c'est un peu le contexte, on va dire, méthodologique et global du processus de nos réflexions. Je vais tout de suite céder la parole à Liliane pour commencer à aborder la question même de cette première recommandation qui est celle de l'action normative, et j'aurai certainement à la compléter au besoin.
Ça marche. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Destiny. Oui, je vais peut-être effectivement me concentrer sur cette première recommandation. On n'a pas énormément de temps. Donc, le protocole. Donc, je dois vous dire que déjà, depuis les premières réunions, enfin, la première réunion à Québec qu'on a eue en mai de l'année dernière, il y a eu pas mal de préoccupations qui ont été exprimées par les différents experts sur cette question de l'action normative, qu'on a fini par classer dans l'action normative. Forcément, dès qu'on parle d'un nouvel instrument, donc là je parle aussi en tant qu'avocate, en tant que juriste, forcément on se demande dans un domaine aussi dynamique, aussi qui a montré en fait qu'il évolue énormément, hyper rapidement, on a toujours ce risque d'obsolescence en fait. Enfin, c'était l'un des premiers arguments que j'ai entendu aussi de mes collègues, c'était il faut qu'on fasse attention pour qu'on ne crée pas quelque chose de nouveau, qu'au moment où c'est adopté, en fait, ça n'a plus de sens, parce que tout simplement, on a été complètement dépassé par la réalité du marché. L'autre aspect, c'était évidemment, bon, il y a toute la procédure interne à l'UNESCO pour faire adopter un document. Donc, quel document ? Est-ce que il y aura de l'incertitude juridique ? Parce que du coup, on multiplie les documents. On s'est dit qu'il faudrait peut-être des choses plutôt qu'on puisse faire modifier assez régulièrement, de manière plus agile. Donc, est-ce que un document qui se concentrerait peut-être sur les principes, sur les valeurs, serait un instrument qui serait moins obsolète au bout de quelques années? Et en même temps, je pense qu'on était tous d'accord sur le fait que on avait ce besoin de préciser des actions, en fait, des actions, comme disait Monsieur le Directeur Général, des actions claires et fermes, des actions qui pourraient être menées par les partis et qui iraient au-delà des discours, hein, comme il disait aussi. Avec cette idée d'enrichir, de compléter ce qu'on a déjà, parce que c'est une convention qui s'applique à l'environnement numérique, on l'a dit maintes fois. Mais en même temps, il y a tellement d'autres instruments qui sont aujourd'hui adoptés sur le numérique. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas transposer justement ces objectifs qui sont, par exemple, comme le pacte numérique mondial, des principes en fait de ces évolutions normatives, et comment les rendre plus clairs et opérationnels du côté des secteurs culturels et créatifs. Et finalement aussi, l'idée que si on devait partir sur l'idée d'un nouvel instrument juridique, alors qu'il soit contraignant, qu'il soit fort, qu'on soit ambitieux. Et je pense qu'il soit fort, en fait. Et donc, effectivement, entre les deux réunions, le département juridique de l'UNESCO a été consulté. Et je vais vous donner un peu, très rapidement, les options qui ont été envisagées à ce moment-là pour qu'on arrive ensuite à la décision du groupe de proposer le protocole. Donc, il y a eu, en gros, sept options qui ont été identifiées. Je vais commencer par celles qui ont été écartées le plus rapidement, puis pour arriver au protocole. La première était, est-ce qu'on devrait, parce que c'est une option, hein, juridiquement parlant, quelles étaient les options qui s'offraient à nous ? Les amendements, donc un amendement à la Convention 2005. Donc, évidemment, il y a le risque d'ouvrir les débats sur d'autres sujets qu'on ne souhaite pas ouvrir. La deuxième option, réviser les directives opérationnelles. On l'a fait déjà. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est relativement simple, si on veut, mais il y a évidemment une procédure interne. Mais il n'y aurait pas de force juridique contraignante. Une déclaration générale qui aurait pu être adoptée par la conférence des parties de la Convention. Pareil, ça n'aurait pas de force juridique contraignante. On s'est dit que ce n'est pas suffisamment ambitieux, peut-être, en termes de solutions concrètes, d'accompagnement par l'UNESCO sur ces sujets. Un plan d'action qui aurait pu être adopté aussi par la conférence des parties. Mais pareil, on avait l'impression que ce n'était pas à la hauteur des attentes qui avaient été identifiées au cours des travaux. Et on a vu, par exemple, que la feuille de route qui a été pour le numérique qui a été adoptée, finalement, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, on a vu qu'elle a été en pratique difficile à appliquer pour des États qui n'avaient pas déjà une stratégie dans ce domaine. Donc, est-ce qu'un plan d'action aurait pu fonctionner ? Donc, il a été écarté également. Ensuite, une recommandation par la Conférence générale de l'UNESCO. Encore une fois, une recommandation, pas de force contraignante. On s'est dit que ça serait placé sous l'autorité du Conseil exécutif de l'UNESCO. Donc, le suivi se ferait aussi en dehors du secrétariat de la Convention. Donc, on l'a écarté. Et puis, les deux options préférées qui ont été les plus discutées pendant la deuxième réunion, c'était une déclaration interprétative de la Convention, qui aurait pu être adopté par une résolution qui porterait, du coup, cette déclaration interprétative. Mais là, on se trouvait s'il pouvait y avoir une force juridique contraignante, on se trouvait sur le problème de savoir jusqu'où on pourrait aller. Est-ce que ça ne limitait pas, finalement, ce qu'on pourrait couvrir avec une déclaration interprétative, puisqu'on resterait quand même attaché à ce qui est déjà dans la Convention. Mais l'idée aurait pu d'utiliser cela dans le cadre de la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969, d'utiliser cette déclaration comme un accord ultérieur intervenu entre les parties à la Convention et qui aiderait à interpréter la Convention. Mais voilà, il y avait ce problème de la limitation. On s'est dit, tant qu'à faire, si on se positionne pour... qu'on a l'effort, on fait l'effort d'adopter un nouvel instrument, autant qu'il nous donne toute l'amplitude nécessaire pour traiter ces questions et les traiter de manière correcte et efficace. Donc, la dernière option, c'était le protocole additionnel à la Convention, qui est celui que vous trouvez aujourd'hui dans la recommandation 1, qui compléterait la Convention, donc avec des nouvelles dispositions sur l'environnement numérique. Donc, on ne traiterait pas d'autres sujets. Elle aurait une force contraignante, elle aurait ses mécanismes propres de suivi, et elle entrerait en vigueur au moment où un nombre suffisant de parties la ratifierait. Et elle permettrait aussi, si on avance correctement, et je vais redonner la parole à Destiny pour qu'il vous complète ça, mais elle permettrait d'avoir une adoption de ce protocole en 2027.
Merci Liliane. Simplement des éléments complémentaires, mais pour répondre aussi aux autres parties des questions qui nous ont été exposées, notamment l'échéancier qui nous fait sentir encore plus cette urgence d'agir, d'intervenir. Il faut dire ici que le protocole, l'idée du protocole, c'est avant tout d'aller vers un certain nombre de rappels, de principes, d'élargir carrément certaines obligations en lien avec ces principes-là qu'on considère comme un peu des codes de conduite finalement qu'il faudrait adopter à l'heure de l'accélération, entre autres de l'intelligence artificielle, mais de toutes les technologies émergentes. Et on doit voir cet instrument comme un palliatif de tout ce qui n'a pas été opératoire, ou par exemple la feuille de route, entre autres. Mais on l'a vraiment préconisé ou proposé en partant d'une conviction que ça pourrait vraiment exprimer, le rapprochement des positions nationales, justement, de toutes les parties à la Convention. Et donc, le protocole s'établit comme un simple système de règles qu'on rappelle et qui nous donne un peu la direction sur comment concrètement agir une fois qu'on a des directives, par exemple, opérationnelles sur lesquelles on peut toujours s'appuyer, faire référence. Mais en gros, qui fait quoi, quand, comment, le protocole amène aussi un peu à réfléchir et surtout à pouvoir aller concrètement décliner ça sous forme d'action. Et par ailleurs, on trouvait que ça vient totalement en complémentarité avec les autres instruments existants, mais que ça va justement plus loin que ce qui existe. Et je peux vous dire que depuis que nous avions fini ce travail et qu'on a soumis, transmis ces recommandations au secrétariat, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans l'intervalle de 2 mois, 3 mois, qui continuent de nous conforter que c'est peut-être, entre autres, la chose à faire qui pourrait avoir le plus d'impact. Pourquoi j'en parle? Ça fait 2 jours que j'étais à Paris au sommet sur l'action sur l'IA. Je ne sais pas si vous avez eu accès à cette fameuse déclaration qui est sortie après la journée des chefs d'État hier. Et figurez-vous, ce n'est même pas une ligne, c'est un mot sur la culture. On parle de la nécessité d'une réflexion mondiale sur un ensemble de questions, en commençant par la sécurité, le développement durable, l'innovation, les droits de l'homme, et j'en passe. Et donc, à la toute fin, on a les droits de propriété intellectuelle et on a la diversité linguistique. Notre culture, dans une déclaration sur l'IA durable et inclusive pour la population et la planète, se résume à ça. C'est complètement minimiser la portée et l'impact de tsunami, en fait, que constitue cette révolution numérique. Et quand le président Macron dit dans son discours « il faut plus que jamais avancer vite, allons-y vite, simplifions la régulation », le message envoyé, c'est effrayant de se dire éventuellement à quel point on parle de l'IA, mais sans aucune considération véritablement éthique et culturelle. Et je me suis dit, mais finalement, il n'y a qu'à l'UNESCO, en réalité, qu'on pourrait avoir, tenir ces débats et justement avoir une position renforcée, confortée, pour envoyer un signal fort par rapport à un instrument un peu plus contraignant, un peu plus normatif. Et dans la suite des choses, bien évidemment, vous le savez, il y a ce processus qui passerait éventuellement, si on veut aller de l'avant et se donner une chance à la culture de prendre sa revanche, ça irait dans le sens de peut-être continuer ces délibérations dans le cadre d'une conférence extraordinaire des partis, puis ensuite pouvoir aller vers le conseil exécutif, ensuite la conférence générale. Et comme le disait si bien Liliana, tout ceci, on sent l'urgence, d'autant plus qu'on a quand même envie de gagner 2 ans plutôt que de perdre 2 ans au bout de la durée du processus.
Merci. Et pour amorcer ce dialogue entre les gens de la société civile et les experts, je vais commencer par demander aux experts de nous indiquer parmi les autres recommandations, c'est-à-dire les recommandations autres que celles relatives au protocole qui a été présenté. Je rappelle que le groupe d'experts recommandait d'organiser un meilleur partage d'informations et des bonnes pratiques, la sensibilisation, augmenter et amplifier les activités de sensibilisation, renforcement des capacités. Et je vais demander à chaque panéliste, en commençant par les experts qui connaissent évidemment les recommandations, qu'ils ont faites, ben les autres aussi, mais quand même, ils les connaissent probablement plus que beaucoup d'autres. Je vais vous demander d'identifier la recommandation la plus importante en dehors de celle relative au protocole. Pourquoi c'est la plus importante, à votre avis, et qu'est-ce que ça implique, et comment on peut envisager sa mise en œuvre. Alors, écoutez, Liliane, vous pouvez...
Oui, avec plaisir.
Enchaîner.
Oui, c'est difficile de dire que c'est une recommandation plus importante que les autres parce que, comme vous pouvez bien imaginer, elles ont toutes été pensées vraiment dans un bloc. On a organisé, en fait, toutes ces journées de discussion de manière à ce que ça soit cohérent et que, voilà, donc c'est difficile de dire c'est plus important. Peut-être qu'on peut essayer, en tout cas, d'attirer l'attention sur une autre recommandation qu'on apprécie ou qu'on, voilà, parmi nos préférés, disons. Moi, si je dois en choisir une pour vous présenter, juste parce que, pour profiter que j'ai été impliquée dans la finalisation de la rédaction de ces recommandations. Donc, il y a 2 recommandations sur le partage de bonnes pratiques et de partage d'informations. Les 2 extrêmement importantes. La deuxième, qui est celle de... améliorer en fait le système que nous avons déjà, la plateforme que nous avons déjà de suivi des politiques qui est construite, enfin c'est une plateforme qui est construite sur la base des informations qui sont soumises dans les rapports périodiques. L'idée était vraiment qu'on ait quelque chose qui nous permette de partager de l'information et des bonnes pratiques de manière continue. Donc ça, c'était vraiment dans l'intention derrière cette recommandation, que ce soit quelque chose qui n'attende pas justement des procédures internes, voilà, quelque chose qui puisse être rapide, qui puisse fournir de l'information sur ces sujets qui sont quand même identifiés comme étant extrêmement importants pour nos discussions sur le numérique, donc la diversité linguistique, le multilinguisme, la promotion des langues sous-représentées dans l'environnement numérique, la découvrabilité des expressions culturelles en ligne, les opportunités, les défis liés à l'intelligence artificielle et un aspect que je trouve extrêmement important, et c'est pour ça, c'est en partie pour ça que je choisis cette recommandation, c'est les informations sur des mesures, des politiques et des initiatives en matière de financement des politiques publiques pour les industries culturelles et créatives. Je pense que ça, c'est un aspect qui est essentiel. Et cette recommandation, si vous l'avez observée, donc la deuxième recommandation, elle parle aussi d'une stratégie de communication, parce que l'idée est de non seulement évidemment avoir une plateforme qui est nourrie, qui est enrichie, et d'ailleurs l'idée c'est que la société civile, donc je profite pour renforcer l'importance du rôle que la société civile aurait dans la mise en œuvre de cette recommandation, on a besoin d'une plateforme qui soit utilisée et qui soit enrichie aussi par la société civile et qui soit utilisée aussi par la société civile, qui soit tournée vers les artistes, vers les professionnels de la culture. Et donc l'idée d'une stratégie de communication est venue avec cette constatation que souvent on a des outils qui sont créés, mais que finalement les gens ne savent pas qu'ils peuvent s'en servir ou comment s'en servir. Donc je vais m'arrêter là. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais voilà, je donne la parole à Destiny pour qu'il en présente une autre.
Oui, très rapidement, parce qu'on aimerait vous entendre aussi quand même. c'est un exercice très difficile de nous demander de devoir en choisir une parmi les 11. Déjà, ce que je dois vous confier, faire comme confidence, on était bien parti dans les premiers jours sur une trentaine de recommandations. Donc, le travail déjà de devoir vraiment tout recentrer jusqu'à en avoir juste une dizaine témoigne déjà de l'importance de chacune prise individuellement, mais aussi de manière très complémentaire parce qu'elles sont très imbriquées et elles sont toutes importantes si on veut justement avoir cet impact qu'on souhaiterait. Cela dit, s'il y en a une que j'estimerais parmi celles les plus facilement, immédiatement, qui pourrait être mise en œuvre, c'est celle qui a pour objectif de renforcer les capacités en matière de culture numérique. Viviana en parlait tantôt. C'est pas juste une priorité ou un besoin pour les pays du Sud. Entendons-nous bien, les réflexions qui nous ont amenés à préconiser cette recommandation allaient dans le sens qu'aujourd'hui, la fracture numérique, la fracture cognitive et le retard que nous avions par rapport au cycle d'innovation très rapide, le retard en termes de compétences, mérite véritablement d'être comblé en misant sur des actions de formation qui cibleraient à la fois les artistes, les professionnels de la culture, mais même les décideurs en charge des politiques culturelles. Et donc, cette idée d'avoir des plans nationaux de renforcement de capacités en matière de culture numérique qui intégreraient des formations sur des enjeux tels que la propriété intellectuelle, les nouveaux modèles commerciaux, les stratégies de création pour toujours préserver la créativité humaine, même si on peut se faire assister de la créativité numérique en lien, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Voilà un ensemble d'éléments qui, à mon avis, pourraient avoir de l'impact sur, ne serait-ce que sur la manière dont nous puissions nous-mêmes, accélérer en fait notre possibilité d'intervenir face aux défis que nous pose le numérique. Donc, renforcement des capacités. Ce serait mon plaidoyer.
Merci. Viviana, what is the recommendation?
Viviana, quelle serait votre recommandation préférée? Auriez-vous une priorité à nous donner? Je dirais la recommandation numéro 7. La création de plans de renforcement de capacité de la culture numérique au niveau national. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas suffisamment de capacités au sein de mon pays pour créer de nouvelles réglementations ou de nouvelles politiques culturelles dans l'environnement numérique. Nous produisons beaucoup de contenu, beaucoup de travail artisanal dans ce secteur, mais nous n'avons pas de réglementation dédiée à l'environnement numérique, à l'IA notamment. Nous pensons que ce type de plan national pourrait combler cette lacune.
Je vais juste revenir très très brièvement sur le protocole pour, dans la continuité de ce qu'a dit Destiny sur la déclaration finale du sommet IA qui est effectivement un peu minimaliste, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, dans les différents instruments internationaux qui peuvent exister, alors même qu'on parle beaucoup de la nécessité d'avoir une gouvernance mondiale de l'IA, aujourd'hui la question de la diversité culturelle, de la protection de la propriété intellectuelle, de la création, elle est finalement très très peu abordée. Et effectivement, le protocole additionnel, il a aussi du sens parce que on peut estimer, on peut aussi être convaincu que l'UNESCO peut être cette enceinte internationale qui donne le là et qui préfigure effectivement une régulation de l'IA qui soit protectrice des créateurs, de la culture et de la diversité culturelle. Et pour répondre à votre question sur la recommandation hors protocole, voilà, qu'on pourrait plus particulièrement distinguer, moi je retiendrai plutôt la dernière proposition, qui est celle de renforcer l'action de l'UNESCO sur l'IA et la culture. Elle est liée au protocole, de fait, puisqu'on est pleinement en cohérence avec cet objectif, et je pense que les enjeux sur la culture et la création de l'IA sont tellement colossaux qu'il y a une nécessité, effectivement, que l'UNESCO, en interne et en externe, soit aussi en capacité de peser plus fortement et d'avoir une action encore plus structurée qu'elle ne l'a aujourd'hui sur l'IA.
Je me tourne maintenant devant, vers Monsieur le Directeur Général. Vos préférences, Monsieur le Directeur Général.
C'est pas un sujet de préférence. Finalement, ce qui est important, d'abord, c'est reconnaître le travail qui a été fait par les experts, qui étaient des experts représentatifs de toutes les régions ici. Donc, ce n'est pas une vision axée sur une demande du sud vers le nord ou d'imposition du nord vers le sud, ce qui n'a jamais été en plus l'esprit de cette convention. C'est justement une convention solidaire, où effectivement. Et ce n'est pas non plus une contradiction. Moi aussi, j'ai suivi un peu pendant que j'étais en salle, les deux jours du sommet. Ce n'est pas, et il faut arrêter de parler que c'est l'industrie ou le développement de l'innovation qui pourrait être opposé aux créateurs ou aux détenteurs de droits intellectuels. Je crois qu'il faut arrêter de dire ça parce que ce n'est pas pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour les plateformes. Non, il y a des solutions, il y a des formes de travailler, mais en respectant quelque chose qui est essentiel, qui est quand même certains droits qui existent et qui sont reconnus par la plupart des pays et qui appartiennent aux créateurs de biens et services culturels. Et dans ce sens, voir cette convention au-delà du cadre de ce que cette convention représente, c'est un danger. Cette convention, elle a été créée pour défendre la diversité des expressions culturelles et linguistiques. Même si ce n'était pas dans l'idée, ça l'est. Donc aujourd'hui, tout instrument additionnel, soit par le volontariat, comme c'est le cas de la recommandation de l'intelligence artificielle, de l'éthique de l'intelligence artificielle qui se fait à l'UNESCO, mais qui dépend de la volonté des États parties à l'assumer comme une recommandation valide pour mettre en œuvre au niveau national, ou alors un instrument que l'UNESCO n'a pas créé depuis une vingtaine d'années, qui pourrait être, c'était des conventions à l'époque, mais un protocole. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que on a une convention à l'UNESCO qui a un protocole, qui est la convention de 1954. C'est une convention qui a été morte pendant 60 ans. C'est-à-dire une convention qui était, je dirais, rangée. Avec le protocole de 1999, qui a pris un temps fou de débat, aujourd'hui, c'est opérationnel. Et c'est opérationnel en Ukraine, ça va être opérationnel à Gaza, ça l'a été en Irak, et dans les pays qui sont en paix. C'est ça le plus important. Et elle se base non pas pour trouver des solutions pour tous les sujets par rapport au patrimoine en conflit, mais ça donne un cadre spécifique de mise en œuvre de cette convention de 1954 pour les États membres. La proposition, quand vous la lisez et quand vous comparez par rapport aux autres instruments, c'est ce qu'elle propose, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est comment prendre cette convention et la faire effective dans l'ère numérique. C'est tout ce que ça propose. Il n'y a pas à chercher quelque chose derrière. C'est tout. Bien sûr, c'est une décision des États membres, s'ils sont prêts à aller dans ce sens ou pas. L'urgence des temps, malheureusement, on n'est pas dans des temps normaux. Ce n'est pas comme avant qu'une convention pouvait prendre 30 ans pour être débattue. L'urgence de ce qui se passe et qu'on n'a pas le contrôle, elle se fait à toutes les secondes. Il y a une innovation par rapport à ce qu'on est en train de parler dans l'environnement numérique. Donc, on n'a pas le luxe de nous prendre 10 années pour réfléchir à ça. Parce qu'en 10 ans, on ne sera plus là, mais en 10 ans, la plupart d'entre nous, mais en 10 ans, vous comprendrez que l'innovation va avancer à une rapidité qu'on sera, cette convention, malheureusement, n'aura plus de sens dans l'ère numérique. Parce qu'il n'y aura plus de diversité. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, vous le voyez, les algorithmes aujourd'hui vous imposent une façon de penser, une langue officielle et des contenus qui sont commandités par des entreprises. Donc, c'est ça qui est en enjeu. Mais une fois de plus, c'est une décision des États parties les experts ont fait leur travail. Je crois que la société civile, les ONG regardent, nous observent pour voir comment on réagit. Et puis après, on verra. Ce qui est sûr, c'est que lors de la rencontre de Mondia Cult, ce sujet, dans toutes les consultations régionales, a explosé. Et ça va être le sujet qui va être abordé comme un sujet où malheureusement, on n'aura pas grand-chose à montrer. C'est ça qui me préoccupe. Et c'était une demande des ministres, de vos ministres, des ministres de la Culture, d'avancer. Et aujourd'hui, on se retrouve à un point où on fait plein de séminaires, réflexions, des rencontres. Mais il n'y a rien de tangible. Et c'est ça l'enjeu. Mais une fois de plus, on verra.
Alors, avec ces propos mobilisateurs, je vous propose d'ouvrir le dialogue. Alors, les personnes qui souhaitent intervenir peuvent se manifester pour ajouter ou pour éventuellement acquiescer ou contester les commentaires de nos panélistes. Vous avez la parole, madame.
Bonjour, je suis la traductrice de la coalition brésilienne pour la diversité culturelle et je parle au nom de la présidente de la coalition brésilienne, Sol Moraes, puisqu'il n'y a pas de traduction d'autres langues que l'anglais et le français. C'est autant plaisir et un honneur d'être ici au siège de l'UNESCO à Paris, à travers de la FICDC, représentant la coalition brésilienne et la coalition des Amériques à cette 18e session du comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expériences.